Donc, je poursuis la série sur 1 Jean, qui a démarré il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on va être dans le chapitre 5, donc l'avant-dernière prédication sur cette série. Et beaucoup a déjà été dit sur ce livre. Donc désolé si je répète des choses, si je dis des choses que vous savez déjà ou que vous avez déjà entendues dans d'autres prédications, notamment sur la vérité, sur l'amour, sur la nouvelle naissance, sur la foi. Désolé, voilà. C'est au moins un signe que vous avez été attentif aux autres prédications, ce qui est bien, et que vous connaissez bien vos Bibles. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais en fait, ce n'est pas entièrement de ma faute de répéter tout ça, c'est le style de Jean. Dans son épître, il va revenir sans cesse sur les mêmes choses, répéter les mêmes thèmes, pour nourrir ses deux buts. Nous mettre en garde contre les faux enseignants qui nous enseignent des mensonges sur Jésus, et pour affermir notre foi, afin qu'on soit certain que ce qu'on a cru est la vérité et qu'on continue à le croire. Et c'est dans ce sens que je vais vraiment continuer. Et juste avant de lire le passage, je veux juste poser quelques questions un peu rhétoriques pour introduire. Concernant la foi, nous en tant que chrétiens, en quoi croyons-nous exactement? Si quelqu'un nous posait la question « En quoi croyez-vous ?» et qu'on devait faire une réponse simple, quelle serait notre réponse? Quelle est cette foi que nous avons et qui est si importante? Quelle est-elle? Comment la décrire? Comment l'identifier? Ou encore, comment on conçoit cette foi dans notre esprit et comment on l'entretient en tant que chrétien? Ou encore, comment pouvons-nous la présenter à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est à la fois des questions basiques pour vous qui êtes peut-être chrétien depuis des années, mais des questions qui ne sont pas si simples, notamment dans l'époque qu'on vit, où la foi est attaquée et où les circonstances peuvent nous mettre en doute. Guerre, terrorisme, des choses et d'autres qui sont dites sur la parole de Dieu et on ne sait plus, on est dans le doute. Internet, les réseaux sociaux, ou encore la persécution qui pourrait nous pousser à rejeter la foi qu'on a. Et Jean, dans ces circonstances, notamment à ces premiers destinataires de sa lettre, et ce matin aussi, veut nous conforter. Il veut nous montrer comment la foi en Jésus-Christ est victorieuse du monde et comment elle est fondée sur le témoignage de Dieu. Et c'est ce que je veux partager ce matin. Je propose qu'on lise donc 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 12. Donc 1 Jean au chapitre 5, les versets 1 à 12. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà notre lecture. J'ai juste intitulé ce message « L'assurance de la foi par le témoignage de Dieu ». Et je propose qu'on regarde ce passage en deux grandes parties. Tout d'abord, les cinq premiers versets qui nous parlent de la foi en Jésus-Christ, source de régénération et de victoire. la foi en Jésus-Christ, source de régénération et de victoire. Et Jean est assez clair dès le début de son passage. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. C'est-à-dire celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Aussi simple que ça. Pas d'autres contraintes, pas d'autres choses rajoutées. Croire que Jésus est le Fils de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est ce que confirme l'évangile de Jean, dans Jean 1, 12, un passage que Nicolas a lu tout à l'heure. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Oui, croire au Fils du Dieu nous donne la vie éternelle. Ça fait de nous des enfants de Dieu. C'est une simple vérité, et pourtant, elle est très contestée. Elle est contestée à l'extérieur de l'Église, par toutes les religions ou tous les systèmes de croyances. On peut partager beaucoup de valeurs avec beaucoup de religions, mais il suffit juste qu'on prononce Jésus, Dieu, et ça fait la distance tout de suite avec tout le reste. Plus rien n'est commun. Ça nous sépare de toutes les autres religions. Mais c'est aussi quelquefois quelque chose qui peut nous miner à l'intérieur de l'Église. Et ça, c'est le contexte de l'épître que Jean envoie à ses destinataires. Parce que dans cette église, il y avait aussi des faux enseignants qui enseignaient que Jésus n'était pas totalement Dieu et pas totalement homme. Et c'est pour cela qu'il leur écrit, pour leur confirmer qu'ils sont enfants de Dieu, du fait de leur foi en Jésus-Christ, pour les assurer que leur foi dans le Fils de Dieu prouve leur nouvelle naissance. Mais tout comme un arbre porte des fruits, la nouvelle naissance ou la régénération où le fait d'être enfant de Dieu a des effets et des conséquences dans notre vie. Et Jean poursuit dans la suite du verset 1 et dans les versets 2 et 3 avec les conséquences de cette nouvelle naissance. Aimer Dieu, être enfant de Dieu, c'est l'aimer, oui. Et aimer Dieu, c'est aimer les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de lui, nous, frères et sœurs en Christ. Si on prétend qu'on aime Dieu, alors on aime les frères et sœurs en Christ. Si on n'aime pas les frères et sœurs en Christ, on ne peut pas prétendre aimer Dieu, parce qu'ils sont issus de lui. Et Jean l'affirme, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, alors vous aimez Dieu, et vous aimez les autres, les frères et sœurs. Il rajoute aussi qu'aimer Dieu, c'est aimer ses commandements, dans le verset 2 et 3. Obéir à sa loi. Accepter tout ce qu'il dit dans sa parole. Et donc pareil, on ne peut pas prétendre qu'on aime Dieu sans aimer notre Bible ou sans obéir à sa parole. Les deux, en fait, sont liés. Aimer les enfants de Dieu, aimer la loi de Dieu ou la parole de Dieu, fait qu'on aime Dieu. Si on aime Dieu, alors on aime sa parole et on aime les frères et sœurs. Mais si on n'aime pas les frères et sœurs ou si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu. C'est une vérité assez simple. Et en fait, c'est même logique. On aime Dieu qu'on ne voit pas, pourquoi on détesterait les frères et sœurs qu'on voit? Ou on aime Dieu qu'on ne voit pas, et pourquoi on détesterait la parole qui est sous nos yeux? Et c'est quelque chose d'assez réel. Jean est peut-être dur ici en disant ça, parce que ça peut ressembler à un test de perfection. Comme s'il était en train de nous demander, est-ce que vous aimez tous vos frères et sœurs? Est-ce que vous aimez complètement la parole de Dieu? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous aimez Dieu? Je ne souhaite pas plomber l'atmosphère, mais... Je lis juste ce qui est écrit, mais je crois qu'il y a un écueil quand même à éviter, un danger. Ce serait de commencer à comprendre ces versets de la mauvaise façon. Ce que Jean explique, c'est que être né de nouveau, ça se voit, il y a des effets. Mais il n'est pas en train de dire si vous n'aimez pas parfaitement ou si vous n'obéissez pas parfaitement, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et je veux vraiment exprimer ces deux écueils qui peuvent nous miner dans notre foi, à la fois la réalité de notre vie chrétienne. Pas simple d'obéir complètement à toute la parole de Dieu. C'est une lutte constante, tous les instants, tous les moments, tous les jours, pour lire, comprendre et se conformer. Et c'est pas simple. Et très souvent, on chute. Très souvent, on n'arrive pas à la cible. Pareil pour l'amour. Qui ici pourrait affirmer qu'il aime tous les frères et sœurs parfaitement ? Oui, il nous est arrivé de des fois avoir des pensées, des fois dire des mots, avoir des réactions. Mais est-ce que cela fait qu'on n'est pas enfant de Dieu ? Et je veux y répondre clairement, non. Jean n'est pas en train de dire si vous n'aimez pas parfaitement vos frères et sœurs ou si vous n'obéissez pas parfaitement à la loi, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ou il n'est pas en train de dire si vous avez du mal à aimer vos frères et sœurs ou si vous avez du mal à aimer la parole de Dieu, vous pouvez petit à petit perdre votre salut. Non. Jean ne dit pas ça. Et je veux donner au moins trois raisons pour lesquelles il ne dit pas ça. Il y en a des milliers à l'intérieur de ce texte, comme à l'extérieur de ce texte, mais au moins trois raisons. La première, c'est le but de Jean quand il écrit cette lettre. Et c'est un peu en dehors de notre passage, mais c'est le verset 13. Je vais le lire. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. » Voici son but. Un de ses buts quand il écrit. C'est qu'on soit confiant dans le fait qu'on est enfant de Dieu et qu'on continue à croire. Il n'est pas en train d'essayer de nous faire douter. Au contraire, il veut qu'on soit confiant dans notre foi et qu'on continue à croire. La deuxième chose qui pourrait être un écueil, ce serait la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas ce que Jean affirme, c'est parce que le verset 1 est clair. La seule condition pour être enfant de Dieu, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre condition. C'est la seule. En plaçant notre confiance en Jésus-Christ, on est enfant de Dieu. Pas d'étape intermédiaire, pas de test, pas de vérification de notre origine, de nos compétences ou de nos connaissances, non. On croit, on est enfant de Dieu. Et la dernière raison, c'est un peu dans la suite du passage, les versets 5 et suivants, c'est qu'il nous encourage en nous disant que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. C'est-à-dire qu'à la fois, il réalise que les commandements de Dieu sont durs, sont peut-être lourds, mais il nous dit aussi, rassurez-vous, ce n'est pas un fardeau. Je vais lire exactement ce qu'il dit. À la fin du verset 3, « Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, oui, c'était dur. Vous venez de ennemi de Dieu à enfant de Dieu. Vous étiez détesté, vous êtes aimé maintenant. Vous devez obéir aux commandements de Dieu parce qu'ils sont bons et qu'ils sont issus de Dieu. Mais en fait, ces commandements ne sont pas un fardeau. Au contraire, ces commandements sont pour nous une source de joie. Parce que de notre nouvelle naissance, nous avons un nouveau désir. Vouloir plaire à Dieu. Ce qui n'existait pas avant, on ne pouvait pas aimer Dieu parce qu'on n'était pas accepté par Dieu. Mais maintenant, nous pouvons aimer, et c'était le chapitre 4 qu'Éric a bien prêché dimanche dernier, on peut aimer nous parce que lui nous aime en premier. On est capable d'aimer, on est capable d'obéir à ses commandements. Mais aussi, on a une nouvelle puissance en nous. Dieu nous donne son esprit. Qui, lui, nous fait grandir jour après jour, de progrès en progrès, pour avancer et pour ressembler de plus en plus à Christ. C'est vrai, si notre foi est souvent critiquée par nos collègues, nos amis, notre entourage, notre famille, si on subit moquerie, intimidation, voire persécution, à cause de notre obéissance, ou si on est tenté, on a envie de revenir à notre ancienne nature, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un nouveau désir. Nous pouvons aimer aimer Dieu comme aimer les frères et sœurs, et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Cette régénération nous permet de surmonter les pressions que le monde met face à nous. Il nous permet d'aimer, d'obéir, de façon joyeuse, et surtout, ce que ce verset souligne, on a la victoire sur la chose qui pouvait nous écraser, qui était la plus lourde. On a la victoire sur le péché. Obéir par la foi en Christ nous rend victorieux. Et donc oui, l'obéissance ne peut pas être un fardeau dans ce cas-là. Au contraire, joie, grâce, source de joie, source de reconnaissance. Parce qu'en Christ, on est victorieux. Et on a vaincu le péché en étant uni à lui qui est mort à la croix pour ce péché. Je relis le verset 5 qui pour moi est vraiment riche et qu'on doit garder à cœur. Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Nous sommes victorieux du monde parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et alors les conséquences de cette nouvelle naissance sont évidentes. C'est notre marche de tous les jours, mais on y va avec joie, animé d'un nouvel esprit, d'une nouvelle conviction. Dans cette première partie, on voit clairement que l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Plutôt, c'est lui la cause de notre foi. C'est en lui qu'on croit. On croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il était complètement homme, complètement Dieu. Et il est au centre de notre foi, de notre nouvelle vie. Et dans le reste du passage, Jean va enfoncer encore le clou. Il va nous donner des raisons d'être sûr que notre foi n'est pas vaine, des raisons d'être sûr que ce qu'on croit est la vérité et qu'on y croit pour de bonnes raisons. Et dans cette deuxième partie, versets 6 à 12, j'ai appelé ça la foi en Jésus-Christ fondée sur le témoignage de Dieu et source de vie. La foi en Jésus-Christ fondée sur le témoignage de Dieu et source de vie. C'est vrai qu'on a une époque où on appelle même l'époque post-vérité. Ce qui veut dire que la vérité est quelque chose de subjectif. J'ai ma vérité, vous avez la vôtre, chacun a sa vérité, et puis on vit bien comme ça. La vérité n'est plus quelque chose qui existe, parce que chacun croit en fonction de ses émotions, de son arrière-plan, de ses envies, de ses idées, de ses soucis du moment, mais pas lié à des faits concrets sur lesquels on peut se rattacher. Et c'est d'autant plus important pour nous d'avoir des certitudes de notre foi parce qu'on est exposé à ça tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans nos discussions avec collègues, amis, famille, même tout seul, le doute peut arriver parce qu'on est assailli de choses qui sont contre la foi. Mais Jean veut nous encourager à croire que ce qu'on croit est vrai. Ce qu'on met en Christ, notre foi, est la vraie chose. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme dans un procès. Il affirme sa vérité et il va appeler ses témoins à la barre. Mes témoins sont là et ils vont dire si ce que je dis est vrai ou pas. Et comme dans un procès, on évalue la qualité de la source pour évaluer la qualité de ce qu'il dit. Si la source est fiable, ce qu'elle dit est fiable. Si la source n'est pas fiable, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et c'est ce qu'il dit dans la suite. Dès le verset 6, Jean évoque que Jésus est venu à travers l'eau et le sang. C'est vrai que c'est une formulation un peu particulière. Je relis le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Il faut qu'on se rappelle que le contexte dans lequel Jean écrit, c'est des gens qui prétendent que Jésus était homme et qu'il s'est divinisé au moment de son baptême et que cette partie divine s'est retirée de lui juste avant sa mort. Ça, c'était ce que les faux enseignants enseignaient dans le contexte de cette lettre. Et c'est pour ça que Jean veut prendre des témoins pour marquer, non, Jésus était Dieu depuis le début, il était Dieu à son baptême, il était Dieu à sa mort et à sa résurrection, et il est toujours Dieu. Et il évoque ces deux choses, l'eau et le sang. Et dans le contexte, en fait, cette eau nous ramène au baptême que Jésus a eu au début de son ministère, où Jean-Baptiste le voit arriver, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus lui dit, oui, il est bien que tu me baptises, parce que c'est l'ordre des choses. Et après son baptême, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous forme d'une colombe pour marquer son appartenance à Dieu. Et c'est le début de son ministère. Et le sang évoque le bout de son ministère, la croix, sa mort, là où il allait, jusqu'au bout. Il a souffert, il est mort. Et le sang pour exprimer sa mort qui nous donne la vie. Et en fait, Jean amène ces deux témoins comme des faits historiques. Vous voyez, il était Dieu au moment de son baptême et il était Dieu au moment de sa mort. Et donc, à aucun moment, c'était juste un homme. C'était un homme et c'était Dieu. Et c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui à la fois s'est fait baptiser et est mort sur la croix et est ressuscité ensuite. En fait, c'est une réalité crucial pour nous, chrétiens, de croire que Jésus est réellement le Fils de Dieu et qu'il l'a été du début à la fin de son ministère et qu'il l'est toujours. Parce que si jamais on nie l'humanité de Dieu, il ne peut pas être notre représentant. Il ne peut pas nous représenter sur la croix. Il ne peut pas être un homme qui, lui, était l'homme qui portait le péché du monde et qui nous représentait. Impossible. Et en même temps, si Jésus n'est pas Dieu, il est incapable de pardonner les péchés. Et donc les deux sont essentiels, que Jésus soit à la fois homme et que Jésus soit à la fois Dieu. En plus de ces faits historiques, à la fin du verset 5, Jean rajoute l'Esprit de Dieu, qui lui-même vient en nous, est un troisième témoin qui affirme, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et on le voit dans l'évangile de Jean, notamment en Jean 15, 26, Jésus qui promet, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est ce que Jésus annonçait avant sa mort. Et à la Pentecôte, c'est ce qui s'est produit. Cet esprit est descendu sur les disciples. Et pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons cet esprit en nous. Et cet esprit fait ce qui avait été promis. Il rend témoignage que Jésus est en effet le Fils de Dieu. Et donc, ça fait trois témoins. Deux témoins historiques, un témoin, Dieu lui-même, son esprit en nous. Est-ce qu'on a besoin de plus ? Pour croire. Est-ce qu'on aurait besoin d'une autre raison pour croire, de preuves scientifiques, de détails, de précisions, ou d'aller revoir à l'époque ce qui s'est passé? Est-ce qu'on aurait besoin de quelque chose de plus? À savoir que dans la loi de l'Ancien Testament, sur la base de témoignages de trois témoins qui disent une chose, on considère que l'affaire est vraie. Et là, on en a trois. Mais Jean ne s'arrête pas là. Au verset 9, il nous dit, si on est capable d'accepter des témoignages humains qui nous racontent la vie de Jésus et qu'on peut croire, mais à combien plus forte raison le témoignage de Dieu lui-même qui nous affirme, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et je veux qu'on lise Jean 1, au verset 19, je vais le lire. Jean 1, verset 19, où Jean-Baptiste, qui va baptiser Jésus, nous explique, Jean 1, 29, où Jean-Baptiste qui baptise Jésus nous explique cela. Le lendemain, il, donc Jean-Baptiste, vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Voici ce que Jean-Baptiste nous dit. Lui, en tant que témoin oculaire, l'a vu, mais avec la conviction que Dieu lui a donnée que celui qu'il baptiserait ou celui sur qui l'Esprit viendrait sous forme de colombe est le Fils de Dieu. Et il nous le dit à la fin. J'ai vu et j'atteste. Si on croit Jean-Baptiste qui raconte ses faits, on doit croire Dieu qui met ce témoignage dans nos cœurs et qui affirme cette vérité jour après jour et qui fait vivre cette vérité à chaque fois qu'on lit sa parole et qui l'enfonce dans notre cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Et je repose ma question, avons-nous besoin de plus de preuves? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour croire? Si vous croyez, j'espère que ces vérités vous encouragent et s'ancrent dans votre cœur pour confirmer votre foi et l'affermir. Si vous ne croyez pas, je repose une troisième fois la question. Avez-vous besoin de choses supplémentaires que de témoins historiques, témoins humains, du témoignage de Dieu lui-même pour croire? Oui, ce témoignage réside en nous. Et Jean nous marque quelque chose au verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pardon, c'était le verset 12. Il y a deux catégories de personnes qui sont bien marquées. Ceux qui acceptent ce témoignage et qui croient dans le Fils de Dieu, à eux est la vie éternelle. Mais il y a cette autre catégorie, ceux qui rejettent le témoignage de Dieu, qui rejettent le fait que Jésus est le Fils de Dieu, et qui alors n'ont pas la vie. Il va même jusqu'à les traiter de menteurs, ou eux traitent Dieu de menteur, parce qu'ils rejettent son témoignage. Dans ce monde de laïcité et avec tous ces concepts qui y sont associés, la foi est quelque chose de personnel ou de caché qu'on peut garder. Voilà, on peut croire en beaucoup de choses et on les associe comme on veut. Ce que ce texte nous dit, on ne peut croire qu'en une chose, que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant cela, on a la vie éternelle. Ça, c'est le message que Jean veut marteler dans nos cœurs, afin qu'on soit affermi dans cette époque de doute, cette époque de contre-vérité, cette époque de persécution, ces temps qui vont vers la fin. Et je veux juste terminer avec trois choses pour nous encourager pratiquement au fait que croire en Jésus-Christ est une force. Tout d'abord, ça nous donne la paix. Ayant la vie éternelle, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Le plus grave est réglé. Plus de doutes, plus de questions à se poser. Est-ce que je suis sauvé, oui ou non? C'est réglé. Nous sommes enfants de Dieu. Ça devrait nous donner la paix. Et la deuxième chose, c'est ayant cette paix, on devrait se sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus zélé pour partager l'évangile autour de nous. Pour annoncer aux autres, voici le message qui donne la vie. Crois que Jésus est le Fils de Dieu et tu seras enfant de Dieu. Expliquer aux gens quel est le détail de la foi, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait grandir. Et dernièrement, c'est de regarder au loin notre espérance. Et de se dire, tout ce qu'on vit ici, difficultés, peines, fatigues, dans tous les contextes ou dans tous les domaines de notre vie, souffrance, c'est passager. Parce qu'on sait que notre destination est sûre. On est enfant de Dieu. Ce n'est pas un statut futur, c'est un statut actuel et qu'on vit dès maintenant. Prions. Merci Père parce que ta parole est claire. Ta parole nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Ta parole nous montre le chemin. Et merci, encore merci pour Jésus qui porte notre péché sur la croix, qui meurt à notre place et qui nous offre sa vie. Merci parce qu'en plaçant notre confiance en lui, nous sommes unis à lui, devenons enfants de Dieu. Et Seigneur, nous sommes riches de tous les privilèges d'un enfant de Dieu, à savoir la vie éternelle. Et Seigneur, que cela soit source de vie, de joie pour nous, de motivation pour ton service. Et Seigneur, de motivation pour continuer à avancer dans la sainteté jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.